Bonsoir. Donc ce soir, je vous propose la lecture d'un passage de Saint Jean au chapitre 8. En réalité, je vais le faire commencer au chapitre 7, verset 53, jusqu'au chapitre 8, verset 11. Un passage donc qui traite de la femme adultère. Si j'ai choisi ce passage, c'est que la dernière fois, nous avons vu David et Bethsabée avec le rabbin Philippe Haddad. On aurait pu bien évidemment prendre en parallèle Hérode et Hérodiade, un couple là encore, ou plutôt une histoire dans laquelle vous avez un enchaînement adultère et meurtre, mais ce meurtre, le meurtre de Jean-Baptiste en l'occurrence, mais ce texte, je l'avais déjà pris la fois précédente, en raison du parallèle qu'il y a entre Samson et Jean-Baptiste, où les deux sont des consacrés au Seigneur. Alors, dans un premier temps, je vais vous lire le texte de Saint Jean, dont je propose une traduction un peu littérale. Et cela donne ceci. Et ils s'en allèrent chacun dans sa maison. Jésus, lui, s'en alla au mont des Oliviers. Et au point du jour, il se présenta de nouveau dans le temple, et tout le peuple venait vers lui. S'étant assis, il les enseignait. Or, les scribes et les pharisiens amènent une femme surprise en adultère. Et la plaçant au milieu, ils lui disent: Maître, cette femme a été surprise en flagrant délit d'adultère. Or, dans la loi, Moïse nous prescrivit de lapider ces femmes-là. Toi donc, que dis-tu? Il disait cela pour le mettre à l'épreuve, afin d'avoir pour l'accuser. D'avoir matière pour l'accuser, j'ai traduit littéralement. Mais Jésus, s'étant courbé, écrivait avec son doigt sur la terre. Comme il demeurait à l'interroger, il se redressa et leur dit: Qui est sans péché parmi vous, lui jette le premier une pierre. Et s'étant courbé de nouveau, il écrivait sur la terre. Mais eux, ayant entendu cela, se retiraient un à un, en commençant par les plus âgés, et il fut laissé seul, ainsi que la femme se tenant au milieu. Se redressant, Jésus lui dit: Femme, où sont-ils? Personne ne te condamna? Elle répondit: Personne, Seigneur. Et Jésus dit: Moi non plus, je ne te condamne pas, va et désormais ne pèche plus. Donc voilà, voici le texte. Il n'y a pas de difficulté d'un point de vue textuel. Certaines versions comportent des ajouts, principalement deux. Donc après le verset 8, quand Jésus à nouveau se courbe pour écrire sur la terre, certaines versions comportent: Il écrivait sur la terre les péchés de chacun d'entre eux. En réalité, c'est. La littérature est abondante, qui s'intéresse à ce que Jésus écrivait sur la terre, et ces versions, ces manuscrits, ont sans doute participent, je dirais, de ce même intérêt. Également, un deuxième ajout, c'est à la fin du verset 9, ou plutôt, oui, c'est ça, au verset 9, après. Eux, ayant entendu cela, se retiraient un à un. Quelques manuscrits comportent, virgule, réprouvés par leur conscience ou leur conscience les ayant réprouvés, hein, comme une espèce de glose explicative qui explique précisément les raisons de leur retrait. Ces ajouts ne sont pas très importants. On ne les retrouve que dans quelques manuscrits. Il n'est pas difficile de montrer qu'ils n'appartiennent pas au texte originel. En revanche, ce qu'on observe, c'est un fait massif. Le texte est complètement absent des manuscrits les plus anciens et les plus sérieux de l'évangile de Jean, dont le texte de l'évangile de Jean passait directement du chapitre 7, verset 52. Il s'agit d'une controverse entre Nicodème et des pharisiens. Nicodème défend devant un parterre de pharisiens, de grands prêtres et de pharisiens en réalité, Jésus, et interroge: Notre loi juge-t-elle un homme sans d'abord l'entendre? Et on lui répond: Es-tu de la Galilée toi aussi? Étudie, tu verras que ce n'est pas de la Galilée que surgit le prophète. Donc nous passions directement de ce verset au verset 12 du chapitre 8, Jésus qui enseigne dans le temple. De nouveau, Jésus leur adressa la parole: Moi, je suis la lumière du monde. Ce sont deux contextes différents. L'un est dans le cadre du Sanhédrin, l'autre dans le temple où Jésus enseigne. Mais tout de même, Les circonstances sont les mêmes, celles de la fête des tentes, ce que Jésus adresse comme parole dans le temple au chapitre 8, verset 12, et ceci, « Moi, je suis la lumière du monde, qui me suit ne marchera pas dans les ténèbres, mais aura la lumière de la vie. » La fête des tentes comprend effectivement, outre le rite de l'eau, qui est évoqué en 7, versets 37 à 39, un rite vespéral de la lumière, avec procession au flambeau, exprimant l'attente de la pleine lumière promise à Israël pour le jour du Messie. Cela dit, donc, si ce texte de saint Jean sur la femme adultère, enfin ce qui est désormais dans l'évangile de Jean sur la femme adultère, est absent des manuscrits donc les plus anciens, les plus sérieux, les plus nombreux, on le retrouve, ce texte, dans l'évangile de Jean, dans quelques onciaux. Alors un oncial, c'est un oncial, O-N-C-I-A-L, est un texte de la Bible en majuscule, ou un texte de l'évangile en majuscule. C'est un oncial est un manuscrit grec. On le retrouve donc, ce texte-ci, cet épisode de la femme adultère, dans l'évangile de Jean, dans le codex de Bèze, hein, qui est un codex qui date de la deuxième moitié du IVe siècle de notre ère. On le retrouve aussi dans la Vulgate de saint Jérôme, donc cette traduction pour l'Église tout entière, hein, de l'ensemble de la Bible, Ancien et Nouveau Testament, par saint Jérôme, dans la deuxième moitié du IVe siècle également. Quant à saint Augustin, qui est contemporain de saint Jérôme, il se réclame avec insistance de cet épisode de Jésus et de la femme adultère. On reconnaît en particulier la fameuse formule d'Augustin. En latin, ça donne ceci, « Relicti sunt duo, misera et misericordia, ils sont deux à rester, virgule, la misère et la miséricorde, quand les accusateurs de la femme comme de Jésus sont partis à un et que Jésus et la femme restent seuls. Ils sont deux à rester, la misère, la femme, enfin la femme, et la miséricorde. Voilà. Alors, je disais donc que ce texte de la femme adultère était attesté par le codex de Bèze. Ce codex de Bèze véhicule sans doute un texte assez ancien des évangiles qui pourrait remonter à la première moitié du IIe siècle. On a une. Et qui serait. Qui serait originaire. Cette tradition des évangiles serait originaire de Smyrne et en particulier de Polycarpe, qui remonterait à Polycarpe, dont on sait qu'il fut disciple de saint Jean. Voilà. Papias, un évêque d'Hierapolis, c'est en Turquie aujourd'hui, ça s'appelle Pamukkale. Papias, qui est de la première moitié du IIe siècle, évoque d'ailleurs ce passage de Jésus et de la femme adultère, même s'il le situe dans un évangile selon les Hébreux, donc ce n'est pas dans saint Jean. Au IIIe siècle, le siècle d'après, il y a des textes comme les Constitutions apostoliques ou les Didascalies syriaques qui en gardent un souvenir précis. Voilà. Même si ce texte ne remonte pas à l'origine, n'était pas présent à l'origine dans l'Évangile, en particulier dans l'Évangile de Jean, le contenu de ce texte correspond parfaitement à la situation de Jésus au cours de sa vie publique. Il s'agit d'une controverse sur une question de la loi de Moïse, comme il y en a ailleurs. Marc 10, Matthieu 19 traitent précisément de la question du mariage dans les mêmes termes. Quant à l'accusation à se servir, si vous voulez, d'un problème ou d'une question de la loi pour accuser Jésus, vous avez le cas assez connu de cet homme à la main sèche dans la synagogue de Capharnaüm, rapporté par Marc au chapitre 3. Ou bien Matthieu au chapitre 12, Luc au chapitre 6. Hein, on cherche à accuser Jésus, on essaie de voir s'il va guérir cet homme à la main sèche le jour du sabbat. Le contenu de cette rencontre entre Jésus et la femme adultère est celui du pardon accordé aux pécheurs, qui est évidemment un thème central des évangiles. Donc il n'y a pas de raison pour mettre en doute la vérité historique de ce texte. Maintenant, on peut se demander comment il en est arrivé là, c'est-à-dire à prendre place dans l'évangile de saint Jean, car pour le dire tout de suite, ce texte n'est vraisemblablement pas de saint Jean, mais il serait plutôt de saint Luc, en tout cas le style est lucanien. Je donne quelques exemples. Je prends quasiment le premier verset de ce texte, c'est le chapitre 8, verset 2. Au point du jour, il se présenta, Jésus se présenta de nouveau dans le temple et tout le peuple venait vers lui. S'étant assis, il enseignait. Quasiment tous les mots de ce verset se retrouvent dans Saint Luc avec une appartenance ou une. Il relève de l'évangile de Luc avec une certitude assez grande. Par exemple, au point du jour, orthos, Luc est seul à utiliser ce mot. On le retrouve au chapitre 24, verset 1. Vous savez, c'est le chapitre de la résurrection. On le retrouve dans les Actes des Apôtres, qui est aussi l'œuvre de Luc, au chapitre 5, verset 1. D'ailleurs, dans une. Phrase comparable, les apôtres qui pénètrent dans le temple au petit jour pour enseigner. Luc est le seul à utiliser des mots de la même famille, comme par exemple orphizo, venir de bon matin, que vous trouvez en Luc au chapitre 21, verset 39, ou orphinos, de grand matin, au chapitre 24, verset 22 de son évangile. De même, le verbe que j'ai traduit se présenter par Guinestai. Et appartient au vocabulaire de Luc. Pour donner un exemple, on le retrouve 8 fois dans l'Évangile et 20 fois dans les Actes des Apôtres. Par comparaison, on ne le retrouve qu'une seule fois dans Saint Jean. Et dans le reste du Nouveau Testament, on ne le retrouve que 7 fois. Ou alors le terme de laos, qui est tout à fait étonnant, tout le peuple, hein, peuple, 36 fois en Luc, 48 fois dans les Actes, 2 fois en Saint Jean, voilà, en 11:50 et en 18:14. C'est vrai que dans le reste du Nouveau Testament, le terme de laos est très présent, 55 fois, mais c'est vraiment Luc qui est le principal utilisateur de ce terme. Ou encore, pour terminer, l'expression « s'asseoir pour enseigner » qui n'a comme parallèle que le chapitre 5, verset 3 de Luc ou le chapitre 18, verset 11 des Actes. Hein ? Autrement dit, du point de vue du style, j'ai pris l'exemple du premier verset. On est dans un style lucanien. Le pardon accordé aux pécheurs, la miséricorde est un thème lucanien par excellence. Je ne pense pas simplement aux paraboles de la miséricorde, celle par exemple du fils prodigue, mais également à ce texte propre à Luc qu'on appelle la pécheresse pardonnée, au chapitre 7, versets 36 à 50. Voilà. Dans certains manuscrits anciens, on retrouve cet épisode de la femme adultère dans l'évangile de Luc. Après le chapitre 21 au verset 38. Voilà. Il s'agit de la fin des enseignements de Jésus dans le temple et juste après commence la passion. Donc nombre d'auteurs pensent que c'était d'ailleurs sa place d'origine. Alors pourquoi dans Saint Jean ? Peut-être précisément pour faire valoir ce que vous avez écrit au chapitre 8 verset 15, Jésus qui dit ceci « Moi je ne juge personne ». Et ce récit illustrerait cette affirmation. Le thème du jugement est très présent dans le chapitre 8. S'il y a un jugement dans notre épisode, c'est celui que les interlocuteurs portent sur eux-mêmes, ce qui est fréquent dans les paraboles. On pourrait également ajouter, toujours dans le chapitre 8, une controverse sur la filiation. Les interlocuteurs de Jésus se réclament d'Abraham, mais leurs œuvres contredisent cette filiation. Ils veulent tuer Jésus. Jésus, d'ailleurs, le conteste cette origine. Si vous étiez des enfants d'Abraham, vous feriez les œuvres d'Abraham. Et la réponse que ces interlocuteurs de Jésus lui font est la suivante, au chapitre 8, verset 41. « Nous ne sommes pas nés de la prostitution. » Hein, prostitution, adultère sont souvent deux situations comparables dans la Bible. Nous ne sommes pas nés de la prostitution, nous n'avons qu'un seul Père, Dieu. L'opposition est à ce point radicale entre Jésus et ses interlocuteurs qu'à la fin du chapitre 8, on cherchera à lapider Jésus, c'est le chapitre 8, verset 59, qui est là le châtiment prévu en cas d'adultère. Alors, il n'y a pas, pour terminer là-dessus, il n'y a pas de raison de contester la canonicité de ce texte. La vérité historique certainement pas, la canonicité non plus, parce que cette canonicité n'est pas liée à un auteur, mais au fait qu'un texte est accepté par l'Église comme un passage inspiré. Il figure dans la Vulgate, donc qui est la traduction commune à toute l'Église depuis saint Jérôme, et la Vulgate est considérée comme canonique En particulier, le Concile de Trente le souligne, donc au XVIe siècle, le souligne particulièrement. Pourquoi ce texte n'a-t-il pas fait partie initialement de l'Évangile, en tout cas de l'Évangile de Jean? La raison la plus vraisemblable, c'est la largesse du pardon de Jésus. Il s'agit du pardon qu'il accorde à une femme adultère ou sur la question de l'adultère. Or, cette question de l'adultère, vous le savez, était jugée très sévèrement, pas simplement dans le judaïsme, mais dans l'Église primitive. On pourrait dire d'ailleurs dans l'Église, qu'elle soit primitive ou non. Voilà. Maintenant que je vous ai donné quelques éléments à propos de la critique historique de ce texte, on va analyser ce texte. Alors, comment se compose ce texte? De deux parties principalement, avec un cadre. Le cadre, c'est ce verset 2 que j'ai déjà évoqué. Au point du jour, Jésus se présente de nouveau dans le temple, tout le peuple vient à lui, s'étant aussi les enseigne. Vous avez une première partie qui va donc du verset 3 au verset 9a, la première partie du verset 9. Il s'agit de l'opposition entre Jésus et des scribes et des pharisiens à propos d'une femme ou à propos de l'adultère. Remarquez l'encadrement au verset 7 au verset 9. On retrouve, ou plutôt au verset 6b, le verset 6b et le verset 8 sont deux versets équivalents. Jésus s'étant courbé écrivait avec son doigt sur la terre, et c'est répété au verset 8, et s'étant courbé de nouveau, il écrivait sur la terre. Je parle donc d'un encadrement. Ce qui est encadré, c'est en particulier cette fameuse formule, cette énigme que Jésus adresse à ses interlocuteurs, qui est sans péché parmi vous, lui jette le premier une pierre. Ça met en valeur, si vous voulez, cette phrase qui est comme le basculement du récit. Par parenthèse, j'ai pensé à quelque chose d'équivalent que l'on retrouve dans un texte fameux, Genèse 22, ce qu'on appelle le sacrifice d'Abraham ou la ligature d'Isaac, ce que le texte biblique présente comme l'épreuve d'Abraham. Après quelque temps, Dieu éprouva Abraham. Il y a dans un passage donc, dans ce texte où on nous dit qu'Abraham est désormais seul avec Isaac, ils sont en train de monter sur la montagne que Dieu a indiquée à Abraham, vers le lieu où Abraham va mettre en place tous les éléments du sacrifice. Et cette montée est encadrée par la même formule. « Vayel chush nehem yardav ou boyardav » et ils s'en allaient tous les deux comme un seul. On traduit habituellement « ils s'en allaient tous les deux ensemble », mais comme un seul, les deux qui vont comme un seul au sacrifice. Et ce qui est encadré, c'est précisément la question que pose Isaac, la prise de conscience du point de vue d'Isaac, du plus fragile, du plus faible, d'un manque. « Voici le feu et le bois, mais où est l'agneau pour l'Holocauste ?» Répond Abraham, « Le Seigneur pourvoira ou verra mon fils. » Et puis, vous avez à nouveau cette formule, « Le Seigneur, ils s'en allaient tous les deux comme un seul. » Voilà. C'est un style que l'on peut retrouver dans la Bible pour mettre en valeur quelque chose d'important. Peut-être, je ne me suis pas essayé, y a-t-il des relations entre cet épisode de la femme adultère et l'épreuve d'Abraham? Le fait qu'Abraham, plus loin au chapitre 8, soit évoqué par les interlocuteurs de Jésus comme descendant d'Abraham pourrait inviter à creuser la question. Alors je vous propose donc maintenant une analyse de ce texte. Tout d'abord le verset 2, donc le cadre. Nous sommes dans le temple, un lieu d'enseignement, un lieu aussi significatif du point de vue de ce qui va se passer. C'est le lieu du pardon des péchés. Le lieu du pardon des péchés, bien évidemment, qui se fait par l'offrande de sacrifice. Alors le péché de l'adultère est un péché grave. Il appartient, vous voyez, il contrevient à un des commandements du décalogue, autrement dit la loi la plus importante, la loi, les paroles de Dieu, même si ce n'est pas simplement la loi, mais les paroles de Dieu, qui ne font pas nombre avec l'ensemble des commandements, préceptes et coutumes que vous avez ensuite dans la Bible. Le décalogue, c'est un ensemble de paroles de Dieu que le peuple a entendu de manière directe. Voilà. Après quoi, il a demandé à Moïse d'être son intermédiaire. Demande qui a d'ailleurs été agréée par Dieu, prenant peur devant, je dirais, les circonstances qui entourent la proclamation du décalogue. Autrement dit, tout ce qui viendra après le décalogue sera désormais donnée par l'intermédiaire de Moïse. Et aussi important soit Moïse, ça reste un homme, et partant, tous les commandements, lois, préceptes, coutumes pourront être aménagés, adaptés, voire suspendus. Hein, si un homme, si ça vient par un homme, il y a une dimension relative qui les affecte, et partant, si les circonstances changent, eh bien, on peut adopter d'autres types de comportements. En revanche, le décalogue vient de Dieu directement, donc il est intangible. Seul Dieu pourrait le modifier. Hein, seul Dieu pourrait le modifier. Donc l'adultère qui contrevient à une des paroles du décalogue est un péché grave. C'est une rupture d'alliance. Hein, la loi, je vous le rappelle, le décalogue en particulier, c'est la mesure objective de l'alliance. L'alliance, c'est la relation avec Dieu. Comment savoir que je suis en alliance avec Dieu? Bien, précisément dans la mesure où j'observe, hein, les différents commandements qui me sont proposés par Dieu. Donc l'alliance rompt. L'adultère rompt l'alliance, c'est à la fois vrai entre un époux et une épouse, mais aussi, et peut-être en premier, avec Dieu. Hein. Alors, à propos de l'adultère, il faut aussi ajouter que s'il désigne un acte précis, hein, il a aussi une dimension générale. Il englobe en quelque sorte tous les péchés. Pourquoi ? Bien, tout simplement parce qu'avec les prophètes, Osée en particulier, dans les chapitres 1 à 3, et toute la tradition qui sera issue de lui, on va comprendre l'alliance, on va comprendre qu'il y a dans l'alliance une dimension d'épousa, une dimension matrimoniale. Et dès lors, tout péché qui romprait cette alliance, quand bien même il ne serait pas un adultère, un vol, un meurtre, pour prendre des commandements qui sont dans le décalogue, tout péché qui romprait cette alliance, serait de manière générique appelé adultère. C'est une qualification générale. Voilà. Bon, je termine avec ce verset 2, avec le terme de peuple. Le fait que ce soit le peuple qui soit utilisé peut éventuellement faire écho précisément à cette alliance qui unit le peuple tout entier à Dieu lui-même. J'en passe maintenant à la première partie de cet ensemble. Les versets 3 à 9a, la première partie du verset 9, et d'abord une première sous-partie, chapitre 3, verset 6a, la première partie du verset 6. De quoi s'agit-il ? Il s'agit donc d'un vis-à-vis entre scribes et pharisiens d'un côté, Jésus de l'autre, à propos d'un cas, une femme adultère. Plusieurs problèmes apparaissent. Les scribes et les pharisiens disent à Jésus: Maître, cette femme était surprise en flagrant délit d'adultère. Or, dans la loi, Moïse nous prescrivit de lapider ces femmes-là. Toi donc, que dis-tu ? Le premier problème qui peut apparaître est le suivant. Si Moïse a prescrit de lapider une femme adultère, pourquoi ne l'ont-ils pas fait ? En réalité, ce qu'il présente est moins une personne qu'un cas. La personne est nécessaire pour souligner le côté dramatique de l'épisode. Mais elle est purement un cas. D'ailleurs, elle sert à illustrer ces femmes-là. On n'utilise d'ailleurs même pas dans cette expression le terme de femme. On dit celle-là, au pluriel. Cette femme est d'ailleurs sans parole, silencieuse. Elle n'a pas voix au chapitre. Elle est un cas, comme je disais. La dimension personnelle, manifestement, disparaît. Donc voici le premier problème. La loi prescrit, pourquoi ne l'ont-ils pas fait ? En réalité, ils vont se servir de la loi pour accuser, c'est le verbe catégoréo, piéger Jésus. Hein ? On peut se demander à quoi sert la loi ? Sert-elle à piéger ou au contraire est-elle cette mesure objective de l'alliance, comme je disais, ou pour reprendre une formule que j'aime bien de Saint-Exupéry, la loi est le cérémonial de mon amour. La loi dit le bien et le mal, elle définit un cadre, celui de la relation à Dieu, celui même de la croissance de la liberté. Souvenez-vous que le décalogue commence par une phrase qui n'est pas un commandement, une parole de Dieu. « Je suis le Seigneur ton Dieu, le Seigneur ton Dieu qui t'a fait sortir de la terre d'Égypte, de la maison de servitude. » Autrement dit, c'est une déclaration de bienfait. Le bienfait accordé, c'est la liberté, et les commandements qui suivent sont ainsi présentés comme autant de voies pour la croissance de cette liberté. Il y a un deuxième problème. On insiste sur un flagrant délit d'adultère, on a répété deux fois le terme d'adultère, mais s'il y a un flagrant délit, où est l'homme? Car il faut tout de même un homme pour commettre ce délit. Hein. Un homme marié ou une femme mariée, mais pas mariée ensemble. Où est cet homme? Il s'est échappé ou on l'a laissé échapper? Ça pourrait faire partie d'un piège plus large, une forme d'adultère organisé pour piéger à la fois la femme et Jésus. À cet égard, notez le contraste. Hein. C'est la seule femme face à un groupe masculin de scribes et de pharisiens. Jésus, selon la réponse qu'il va donner, va-t-il rejoindre ce groupe accusateur? Premier problème, deuxième problème, un troisième aussi. Que prescrit la loi? Je vous ai mis sous le texte deux citations, l'une du Lévitique, chapitre 20, verset 10, l'autre du Deutéronome, chapitre 22, verset 22 à 24. Ils disent à peu près la même chose. Le Lévitique, par exemple, « Si un homme commet un adultère avec une femme mariée, s'il commet un adultère avec la femme de son prochain, l'homme et la femme adultère seront punis de mort. » Le Deutéronome étant la situation à une jeune fille vierge fiancée ou promise en mariage, et précise d'ailleurs que la peine de mort sera par lapidation. Voilà. Remarquez d'ailleurs que c'est toujours un homme qui couche avec une femme mariée, et jamais l'inverse qui est envisagé. Bon, je ne cherche pas à développer ce point. Hein. Donc la loi prescrit la peine de mort par lapidation. Certes, le châtiment est dramatique, mais en réalité, la loi aussi, il faut s'en rappeler, hein, la première fonction de la loi, c'est la révélation, et en particulier la révélation du caractère nocif du péché, du caractère grave du péché. Et là, le châtiment, dans sa gravité, veut évoquer précisément la gravité du péché. La difficulté est la suivante. Peut-on appliquer la loi quand on ne possède qu'un coupable sur les deux? Est-ce que la loi est applicable? Est-ce qu'il n'y aurait pas une forme d'injustice à appliquer la loi dans ces conditions? Autrement dit, on fait peser à la femme adultère, alors que la loi prescrit que l'homme et la femme adultère seront punis de mort, dans les deux cas, Lévitique 20 ou Deutéronome 22, on ne fait peser que sur une seule le péché. Cela peut sans doute légitimer le fait que les scribes et les pharisiens n'aient pas appliqué la sentence et aient présenté à Jésus la femme prise en flagrant délit d'adultère. Mais dans ce cas, on peut se demander pourquoi Jésus ne s'est-il pas sorti du piège en invoquant lui aussi cet argument? Est-ce que l'argument est trop facile? Le peuple est là, auprès duquel Jésus pourrait apparaître comme manquant de courage. Réfléchissons un petit peu à cette question de piège. Un piège, c'est un cas dans lequel vous n'avez pas de solution. Quelle que soit l'option que vous prenez, vous êtes piégé. Alors, Jésus aurait pu se défausser, ou plutôt souligner que la loi ne peut pas s'appliquer dans ces circonstances, mais est-ce que ce n'aurait pas paru être une manière de se défausser? Un piège, ça veut dire que Jésus ne peut pas dire oui ou non. Hein. Soit il est en faveur de la loi, en faveur de Moïse, soit il soutient la prescription de Moïse, et dès lors le pardon qu'il propose est un pardon limité par au moins un cas, qui est le cas d'adultère. On pourrait d'ailleurs penser, se demander s'il ne serait pas limité dans ce cas-là à tous les cas que le décalogue interdit. Mais si le pardon est limité, ne serait-ce que par la situation d'adultère, est-ce encore le pardon ? Est-ce que le pardon est total dès lors qu'on retire un cas qui est impardonnable? Tout moins un, c'est pas tout. Hein, tout moins un, c'est pas tout. Et pas tout, ça pourrait être rien. Je vous rappelle que c'est le propos du serpent dans le chapitre 3 de la Genèse. L'habileté du serpent qui, prenant conscience que Dieu a interdit l'arbre de la connaissance du bien et du mal, alors même qu'il a donner à manger de tous les arbres du jardin, faire remarquer à la femme qu'en réalité, en en enlevant un, il a nié le tout comme tout. Et dès lors, il va présenter la parole de Dieu comme Dieu a dit, vous ne mangerez pas de tous les arbres du jardin. D'un certain point de vue, celle d'une logique d'ensemble, le propos, la phrase du serpent n'est pas fausse, au contraire, hein, tout moins un, c'est Patou. Et l'habileté du serpent, c'est de précisément de montrer que Patou, en réalité, c'est rien. En retirant un cas, un arbre, Dieu a finalement tout retiré. Et en retirant un cas du pardon, l'adultère, est-ce que Jésus a un pardon exprimé différent de celui que qui était pratiqué jusque-là dans le monde juif. Donc ça, c'est un premier problème, vous voyez, si Jésus dit oui, est d'accord, agrée la décision de Moïse, enfin le propos de Moïse, il ruine en quelque sorte la nouveauté de ce qu'il apporte. À l'inverse, s'il pardonne à la femme, s'il s'oppose au commandement de Moïse, ne va-t-il pas s'opposer à la loi? Cette loi qui est quand même l'expression de la volonté divine. Comme je le disais, l'adultère n'est pas n'importe quel interdit, il appartient au décalogue. Allons plus loin tout de même. Si l'alliance a une dimension matrimoniale, je l'ai rappelé, tout péché, toute transgression de la loi peut être qualifiée en quelque sorte d'adultère. Donc si Jésus s'oppose à la loi, ne pourrait-il pas être qualifié lui aussi d'adultère? Dans ce cas, on aurait une femme adultère et un homme adultère, un couple reconstitué, peu importe qu'ils aient commis le péché ensemble ou que l'adultère soit d'un côté effectif et de l'autre générique. On aurait donc un couple reconstitué permettant ainsi d'appliquer le précepte, c'est-à-dire la lapidation. Est-ce que je force le trait? Malheureusement, nos cœurs de pécheurs sont capables d'imaginer les coups les plus tordus et de les justifier, même en se servant de la loi. N'est-ce pas ce que font les interlocuteurs de Jésus quand ils veulent l'accuser, le piéger, avoir motif précisément pour le juger, pour ne pas dire le tuer? Comme je le faisais remarquer plus haut, la controverse va atteindre un tel point d'opposition qu'à la fin du chapitre, on voudra lapider Jésus. C'est au chapitre 8, verset 59. Alors qu'est-ce qu'on fait quand on est dans une situation où manifestement il n'y a pas d'issue? Ou qu'est-ce que fait Jésus? Je passe au verset suivant, donc 6b 9a, ces versets donc qui sont dans lesquels vous avez l'encadrement de la phrase qui est sans péché parmi vous, qu'il lui jette le premier une pierre. Jésus fait une parabole. Qu'est-ce qu'une parabole? Une parabole, c'est une comparaison, une énigme, un proverbe, une image qui cherche à rejoindre un mystère qui nous dépasse. On part d'une réalité de notre existence, de notre expérience, pardon, la création, l'activité humaine, pour figurer ce mystère. La parabole, porte un jugement extrêmement positif sur l'expérience humaine, puisqu'elle est capable, à partir d'elle, nous sommes capables de remonter à ce mystère le plus grand qui est Dieu. La parabole, dans un contexte de péché, comme par exemple on l'a vu la fois dernière avec David et Bethsabée, peut aussi être utilisée et montrer toute sa force. Comment amener le pécheur, en l'occurrence David, à reconnaître sa faute? La parabole est un récit à distance, une parole qui fait un détour, qui a la capacité de déjouer ce mécanisme automatique d'autodéfense que le pécheur met en œuvre quand il se sent sinon accusé, sinon au moins suspecté. Ce n'est pas moi, c'est elle, est aussi vieux que le monde, vous le savez. C'est donc une parabole, Jésus se courbe pour écrire sur la terre. Comme je le soulignais au début de cette intervention, il y a des pages de littérature entière pour savoir ce qu'il a écrit. J'ai cité l'ajout que l'on trouve dans certains manuscrits, il écrivait les péchés de chacun d'entre eux. D'autres propositions, parmi les plus célèbres, celle de saint Jérôme, que je vous mets sur la feuille, c'est en Jérémie, au chapitre 17, verset 13. Voici ce que dit le texte: « Toi qui es l'espérance d'Israël, ô Seigneur, tous ceux qui t'abandonnent seront confondus, ceux qui se détournent de moi seront inscrits sur la terre. » Voilà, seront inscrits sur la terre, ceux qui se détournent de moi, car ils abandonnent la source d'eau vive, le Seigneur. C'est le verbe katav, ou katav même au pluriel, hein, ils seront inscrits, hein, al-aretz ou ba-aretz, pardon. Donc voilà une proposition de Jérôme, mais il y a d'autres propositions que je vous mets aussi en dessous de celle de Jérôme. Par exemple, du verset 23, du chapitre 23 de l'Exode, verset 1, tu ne te joindras point aux méchants pour faire un faux témoignage, ou encore. Une autre proposition, toujours dans le chapitre 23 de l'Exode, au verset 7, tu ne prononceras point de sentence inique. La sentence inique, ça consisterait précisément à condamner une seule, alors que le péché a été commis par deux. Ce verset, d'ailleurs, du chapitre 23, verset 7 de l'Exode, est cité par Daniel au chapitre 13, l'épisode de la chaste Suzanne, quand deux vieillards veulent abuser d'elle, qu'elle se refuse à eux, et que dès lors ils vont produire un faux témoignage, l'accusant d'adultère. Daniel, un jeune homme, va s'interposer, séparer les deux vieillards, et interpeller en particulier le premier de la manière suivante. Toi qui as vieilli dans le mal, tu portes maintenant le poids des péchés que tu as commis autrefois en jugeant injustement. Tu condamnais les innocents, tu as acquitté les coupables. Alors que le Seigneur a dit, tu ne feras pas mourir l'innocent, le juste. C'est une citation donc d'Exode 23, 7. Voilà. Qu'est-ce que Jésus a écrit sur la terre ? Nous n'en savons rien. Le geste en lui-même est parlant. Et la parole qu'ajoute Jésus vient l'éclairer. Que signifie écrire sur la terre ? Ça peut signifier plusieurs choses. D'abord, le rappel de la condition humaine qui est faite de terre et de souffle. Je vous rappelle le livre de la Genèse, chapitre 2, verset 7. L'évocation d'ailleurs d'une condition trop fragile pour établir l'homme en position de justicier, ou pour le dire en termes bibliques plus généraux, pour qu'il accomplisse la loi, en particulier quand la loi prescrit le châtiment en cas de péché accompli. Qu'est-ce que signifie ce fait que Jésus écrive sur la terre ? Le rappel de la loi dont Dieu veut qu'elle soit écrite non pas sur des tables de pierre, mais sur le cœur. Sur des tables de pierre, les tables de pierre, on peut toujours les retourner les uns contre les autres. C'est une image de la lapidation, c'est justement avec une pierre que l'on doit faire disparaître l'adultère. Par ailleurs, il y a aussi la phrase de Jésus qui éclaire le geste qu'il vient de poser. Cette phrase évoque l'incapacité du pécheur à juger un autre pécheur. En ayant péché, il se délégitime comme accusateur. Elle est un appel à la conscience, à la loi précisément inscrite dans le cœur. Davantage, remarquez combien l'énigme que Jésus dit est habile ou sage. Qui est sans péché, parmi vous, lui jette le premier une pierre. Parce qu'il se produit une espèce de miroir. La femme adultère devient comme le miroir de ses accusateurs. La pierre qui pourrait lui être lancée parlera autant de celui qui la lance que d'elle. Puisque si je lance la pierre, ça veut dire que je me reconnais sans péché. Voilà. Donc elle parle autant de moi que de la femme adultère qui mérite d'être lapidée. La pierre devient en quelque sorte une pierre de vérité ou d'achoppement de mon désir mauvais de piéger ou de tuer. On n'est pas loin de Nathan disant à David, par cet effet miroir donc, on n'est pas loin de Nathan disant à David, après qu'il lui ait raconté la parabole, et que David ait jugé, qu'en jugeant, il se soit jugé lui-même, « Cet homme, c'est toi ». Le résultat maintenant, ils s'en vont un par un. La masse d'accusations se désagrège morceau par morceau. À commencer par les plus vieux, est-ce les plus pécheurs ou les plus sages ? Vous jugez ? Pour ma part, j'ai toujours été surpris par le risque que prenait Jésus. L'appel à la conscience, que vaut-il quand on s'adresse à un ensemble ? Est-ce que cet appel à la conscience a plus de chances d'être entendu quand on s'adresse à un groupe que quand on s'adresse à un individu ? Dans un ensemble, un homme peut se cacher, une pierre peut être lancée par quelqu'un de la foule, et si l'un de la foule jette une pierre, c'est toute la foule tout entière qui va se retourner avec lui. Cela dit, ce sont des scribes et des pharisiens, autrement dit des notables. Ont-ils une pierre dans la main ? Plus loin, vous le savez, à la fin du chapitre, c'est une pierre qu'ils prendront, qu'ils ramasseront pour la lancer contre Jésus. J'en viens à la deuxième partie de cet épisode, les versets 9b à 11. Jésus qui est désormais seul face à la femme, est-il sans péché pour lui jeter une pierre ? Et s'il ne la jette pas, n'est-ce pas un aveu de péché ? La première chose, c'est que Jésus lui donne la parole. Elle était silencieuse, elle n'était qu'un cas. Elle peut désormais parler, elle retrouve un statut, elle est même une femme, pas d'abord une femme adultère. Femme, où sont-ils ? Dans la suite de la parole précédente, est-ce une parole miroir ? Femme, comme une manière Et femme est une manière commune de parler, mais c'est aussi un miroir pour l'homme qui est Jésus. La référence à la Genèse n'est peut-être pas forcée. Quand l'homme eut péché, il se cacha et Dieu vint. Où es-tu? Et c'est la question que Jésus pose. Où es-tu? Demanda Dieu. Et c'est la question que Jésus pose. Où sont-ils? Personne ne t'a condamné, ajoute Jésus. C'est une question, mais c'est une question qui est grosse d'une espérance ou d'une miséricorde, qui, avant d'être prononcée, se retrouve sur les lèvres de la femme devant son Seigneur. Personne, Seigneur. Moi non plus, réponse de Jésus, moi non plus, je ne te condamne pas, catakrino. Va et désormais ne pêche plus. Il est important de prendre la phrase dans son entier, au risque de considérer qu'en pardonnant à la femme, on relativise le péché. Un problème tout de même, il y a eu péché et la loi n'a pas été appliquée. Comment on rétablit la justice dans ces conditions? À mon avis, c'est tout le sens du verset final, du verset final du chapitre 8, 8:59, la lapidation retournée contre Jésus. Sans doute, dans le contexte immédiat, cela exprime cette lapidation et la réaction de ses interlocuteurs face à la démesure des propos de Jésus. Avant qu'Abraham fût je suis, utilisant cette formule assez banale, ego eimi, qui peut dire c'est moi, mais aussi qui peut être le diminutif du nom de Dieu, donc revendiquant une autorité qui est celle de Dieu, et la phrase ne laisse aucune alternative là-dessus, avant qu'Abraham fût, je suis. Mais implicitement, donc, le fait que la lapidation soit désormais dirigée vers Jésus exprime le passage du pécheur à l'innocent, on pourrait dire la substitution du pécheur et de l'innocent. La lapidation de la femme est définitivement suspendue parce que Jésus en prend la responsabilité, c'est-à-dire ce que nous pouvons appeler avec Israël, parce que c'est nos péchés ou le péché de la femme qu'il porte désormais, ou avec saint Paul, donc je cite Isaïe, chapitre 53, verset 5, ou avec saint Paul, ou saint Paul, dans la deuxième aux Corinthiens, chapitre 5, 21, Jésus a été fait péché pour nous, et Paul ajoute, afin que nous devenions justice en lui. Pour conclure, j'évoquerai plutôt un souvenir personnel. J'ai vécu en Afrique il y a une trentaine d'années. J'étais en pleine brousse dans une ethnie qui s'appelait les Kotokoli. Kotokoli, ça signifie les tapeurs de sable. Pourquoi les appelle-t-on ainsi? Il y a, quand un problème se présente, j'ai perdu une chèvre, un animal de mon troupeau, je m'en vais voir le marabout et je l'interroge. Pourquoi j'ai perdu une chèvre? Qui en est le responsable en quelque sorte? Ce que commence par faire le marabout avant de me répondre, c'est taper sur le sable, faire quelque chose de plane, hein, avec la poussière, et ensuite avec son doigt tracer des signes que je ne comprends pas, et ensuite délivrer une parole. Les signes, le geste est associé à la parole, et il fait comprendre que la parole que le sage va prononcer a peut-être un sens caché, hein, qui n'est pas immédiat, et que j'ai besoin de réfléchir pour trouver la raison, voilà, que je recherche de la disparition de mon animal. Donc il y a quelque chose, vous voyez, un petit peu d'équivalent entre ce que fait Jésus. Hein, il l'écrit sur le sol. Voilà. Et il délivre une énigme à ses interlocuteurs, une énigme qui va être pour eux l'occasion de se juger eux-mêmes et partant de reconnaître qu'ils ne sont pas dans la capacité d'appliquer une loi qui prescrit de lapider les femmes adultères. Je vous remercie.